Tumulte, le magazine de l'information et des musiques nouvelles de Radio PFM. Dans 30 minutes, le journal de Tumulte, nous recevrons Laurent Cordonnier et Franck Van Velde, tous les deux économistes et enseignants à l'université Lille 1, et Philippe Ledoussal qui enseigne la philosophie. Au menu, le point sur la crise de la dette et un éclairage philosophique sur la notion de souveraineté. Mais d'ici là, 30 minutes de musique tumultueuse. C'est le contenu de ce tumulte numéro 1092. Jean au micro, salut. Fuck It, You Win, c'était Annie El-Khatib, extrait de l'album Will the Guns Come Out, une nouveauté du dernier trimestre 2011, de cette rentrée 2011, plutôt rafraîchissante. Violent Femme, extrait de leur premier album. Blister in the sun. When I'm out walking, I strut my stuff, and I'm so strung out. I'm high as a kite, I just might stop to check you out. Let me go on, like I blister in the sun. Let me go on, big hands, I know you're the one. Body and beats, I stain my sheets, I don't even know why. My girlfriend, she's at the
I stop and I'm so strung out. And I'm high as a kite, I just might stop to check you out. Body and beats, I stain my sheets, I don't even know why. My girlfriend, she's at the end, she is starting to cry. When I'm walking, stop again, I'm so strung out. I'm high as a kite, I just might stop to check you out. Let me go on, like I blister in the sun. Let me go on, big hands, I know you're the one.
Extrait du même album paru en 1982, Kiss Off.
Someone, a person to talk to, someone who cared to love. Could it be you? Could it be you? Situation gets rough, then I start to panic. It's not enough. It's just the habit, a kid, you're sick. Well, darling, this is it. You can all just kiss off into the air. Behind my back, I can see them stare. They'll hurt me bad, but I won't. They'll hurt me bad, they do it all the time.
Yeah, yeah.
Yeah, they do it all the time.
Yeah, yeah.
They do it all the time.
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 Do it all the time. I hope you know that this will go down on your permanent record. Oh yeah? Well, don't get so distressed. Did I happen to mention that I'm impressed? Cause you left me, and two for my family, and three for my heartache, and four for my headaches, and five for my lonely, and six for my sorrow, and seven for no tomorrow, and eight I forget what eight was for, but nine for lost God, ten for everything. You can all just kiss off into the air. Behind my back, I can see them stare. They'll hurt me bad, but I won't mind. They'll hurt me bad, they do it all the time.
Yeah, yeah.
Yeah, they do it all the time.
Yeah, yeah.
Yeah, they do it all the time.
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 Violent Femme, vous êtes à l'écoute de Radio PFM sur le 99.9, libre et sans pub. Magazine Tumulte, dans une quinzaine de minutes, nous recevrons Laurent Cordonnier et Franck Vandevelde, tous les deux économistes et enseignants à l'Université Lille 1, en compagnie de Philippe Ledoussal, qui lui enseigne la philosophie. Musique, avec un extrait de l'album The Gift de John Zorn, Marc Ribot à la guitare, Jamie Staft à l'orgue, Trevor Dunn à la basse, Ciro Battista aux percussions et Joey Baron à la batterie.
step back, and then we take one step forward, one step back, and then we take one step sideways. No worries, no one's looking. One step sideways, no worries, no one's looking. Falling up, falling down, falling up, falling down, over and over and over and over and over and over again until the music's ended.
On termine cette petite séquence musicale avec Violent Femme, que l'on retrouve à un autre extrait de ce même album, paru en 82.
Wow.
some things that I wouldn't miss. But I look at your pants and I need a kiss. Why can't I get just one screw? Why can't I get just one screw? Believe me, I know what to do, but something won't let me make love to you. For just one day after day, I get angry and I will say that the day is in my sight. When I take a bow and say goodnight. Oh my mama, mama, oh my mom, have you kept your eye on your son? I know you've had problems, you're not the only one. When your sugar left, he left you on the run. So oh my mama, mama, oh my mom, take a look now, look what your boy has done. He's walking around like he's number one. So he went downtown and he got all my guns. Don't shoot, shoot, shoot that thing at me. Don't shoot, shoot, shoot that thing at me. You know you got my sympathy, but don't shoot, shoot, shoot that thing at me. Don't shoot, shoot, shoot that thing at me. Don't shoot, shoot, shoot that thing at me. You know you got my sympathy, but don't shoot, shoot, shoot that thing at me. Looking down kitchen at the top of the stairs, can I mix in with your affairs? Share a smoke, make a joke, grasp and reach for a leg of hope. Words to memorize, words hypnotize, words make my mouth exercise. Words all fail the magic prize. Nothing I can say when I'm in your thighs. Come on, my mother, I would love to love you, lover. City's restless, it's ready to pounce. In your bedroom, ounce for ounce. And oh, my mother, I would love to love you, love. The city's restless, it's ready to pounce. Go here in your bedroom, ounce for ounce. I've given you a decision to make, things to lose, things to take. Just she's about ready to cut it up. She said, wait a minute, honey, I'm gonna add it up. Add it up.
Violon Femme, et juste avant, c'était la formation Cosa Brava, extrait de l'album Ragged Atlas, avec Fred Ferris, Carla Kilstedt, Zina Parkins et Mathias Bossi. Magazine Tumult sur Radio PFM 99.9, libre et sans pub, le journal de Tumult. Recevons Laurent Cordonnier et Franck Vandevelle, tous les deux économistes et enseignants à l'université Lille 1, et Philippe Ledoussal, qui enseigne lui la philosophie. Au menu, le point sur la crise dite de la dette et un éclairage philosophique sur la notion de souveraineté. Eh bien, salut à nos trois invités. Et puis, peut-être pour commencer, un petit point sur la crise de la dette. On s'était écouté. On avait discuté un peu sur cette crise de la dette il y a à peu près un mois et demi. Et on parlait de risque de défaut partiel de la dette grecque et risque de contagion, de récession ou de croissance très faible, en tout cas dans les autres pays de la zone euro.
Alors, le risque de défaut de la Grèce, je crois même qu'on avait eu le temps de le constater la fois dernière, puisque c'est déjà une réalité. Si les chiffres ne sont pas pipés, les banques seront tenues d'abandonner la moitié de leurs créances sur la Grèce. Ceci dit, ça n'a pas suffi à refroidir les taux d'intérêt sur les marchés financiers. On pourrait même dire que bon, c'est vrai que ça a l'effet indésirable de rendre encore plus inquiets les investisseurs quand on leur dit qu'ils vont être obligés de perdre de l'argent sur ce qu'ils ont prêté. Donc pour la Grèce, rien n'est vraiment solutionné. Et pour le reste de l'Europe, comme on dit, les tensions sur les taux d'intérêt des dettes publiques ont continué à augmenter et à jouer de manière alarmiste, si bien que nous sommes aujourd'hui carrément là à la croisée des chemins et peut-être nous sommes en train d'examiner les dernières tentatives qui ont été faites par les dirigeants européens pour essayer de sauver le navire sans utiliser les bonnes solutions. Mais je crois que c'est un petit peu la manière qu'on pourrait avoir de résumer les choses, puisqu'il y a eu à la fois le sommet du 9 décembre des chefs d'État européens qui ont avancé vers un nouveau pacte budgétaire intergouvernemental. Et puis il y a eu aussi les dernières mesures prises par la Banque Centrale Européenne pour rendre encore davantage accommodante la politique monétaire. Alors c'est peut-être ces deux éléments-là qu'il faut décrire rapidement avant de se demander...
Oui. Peut-être Laurent, avant de les décrire, à moins qu'ils fassent partie du problème, que les solutions fassent partie du problème, est-ce qu'on est sur le diagnostic, est-ce que, par exemple, Franck, est-ce que tu partages le même point de vue ?
Je partage le même point de vue que Laurent, mais si les gens qui nous dirigent n'ont pas les bonnes solutions, c'est aussi parce qu'ils n'ont pas le bon diagnostic. C'est peut-être à la limite plus fondamental. C'est-à-dire, ils s'obstinent à penser que la crise est à l'origine une crise de dette publique et que la seule solution de la traiter, c'est par l'austérité budgétaire. Donc il faudrait qu'ils fassent un petit retour en arrière, pas très lointain. Il suffirait de revenir au déclenchement de la crise financière en 2007 pour se rendre compte que le problème, ce n'est pas la dette publique.
D'accord. Alors si ce n'est pas la dette publique, c'est le problème vient de où ?
Ben, il y a, à mon sens, il y a deux problèmes. Si tu as des niveaux différents, au niveau de l'ensemble de l'économie capitaliste, il y a un problème qui réapparaît une nouvelle fois, mais qui est un problème récurrent d'insuffisance de la demande globale pour écouler la production de plein emploi. Hein, c'est la crise typique d'un système capitaliste gouverné par la finance. Et puis il y a un problème propre à l'Europe qui est d'avoir construit une zone monétaire mal fichue dont certains ont dénoncé le vice de construction dès le départ et qui se révèle actuellement dans toute sa malignité.
Laurent, quelque chose à rajouter là sur le...
Non, tout à fait d'accord sur le diagnostic. Ceci étant, il y a tout de même un point d'arrivée qui est qui atteint des niveaux là pour le coup hyper critiques. C'est vrai que la montée des taux d'intérêt aujourd'hui sur les dettes publiques est en train d'emballer le problème furieusement. Et donc dans l'urgence, on comprend quand même que peut-être les dirigeants européens ont dans l'idée que par ce qu'ils font et par les mesures qu'ils prennent, ils seraient en mesure de calmer la montée des taux d'intérêt sur les dettes publiques. Donc,
la crise se manifeste sous la forme d'une crise de la dette.
Ben, aujourd'hui, les finances publiques sont le réceptacle de toutes les malformations que Franck a décrites. Et pour tout dire, c'est bien là que tout risque d'exploser. Alors même si au départ, ce n'est pas une crise des dettes publiques, on pourrait dire que c'est un krach obligataire lié au fait que les marchés, depuis maintenant 18 mois, se défient complètement de la capacité de remboursement des États. Et c'est le fait qu'on l'a dit plusieurs fois, c'est le fait qu'ils se soient mis à paniquer qui crée cette envolée des taux d'intérêt. Et c'est bien cette envolée des taux d'intérêt qui va mettre les États à genoux. Bon. Donc on pourrait dire que la prophétie autoréalisatrice de la panique est en train de se mettre en œuvre. Et on comprend quand même que dans l'urgence, l'objectif soit de doucher cette panique et d'essayer de faire baisser les taux d'intérêt.
Effectivement.
Oui, Franck.
Encore qu'il y ait deux interprétations. Hein. Pendant tout un temps, on a dit que, disons que certains avaient instrumentaliser le problème de la dette publique. Je pense qu'il y a effectivement des néolibéraux purs et durs qui, d'une certaine façon, se réjouissent de l'aggravation du problème de la dette publique, de la montée des taux d'intérêt, de la pression des marchés, parce qu'ils pensent que, dans certaines circonstances, c'est la seule manière de faire passer un certain nombre de réformes qu'ils appellent de leur vœu. Mais ce n'est pas exactement, me semble-t-il, la position des gouvernants actuellement, qui sont plutôt dans la situation d'avoir adhéré à une certaine idéologie néolibérale et d'être dans la situation de l'apprenti sorcier qui a déclenché un mécanisme qui ne contrôle plus. Donc y a toutes les positions entre les manipulateurs de la dette publique et du fonctionnement des marchés financiers, et puis effectivement des gouvernements qui commencent effectivement à s'affoler sérieusement et qui souhaiteraient trouver en tout cas les solutions d'urgence.
Alors examinons peut-être maintenant la solution présentée par le sommet européen, donc un projet de traité.
Alors un nouveau projet de traité, mais alors cette fois-ci pas un traité habituel, enfin on va peut-être passer sur les subtilités politiques et juridiques, mais il s'agirait d'un pacte budgétaire intergouvernemental, dont le but, en fait, quasiment unique, est de renforcer une nouvelle fois les critères de stabilité budgétaire en Europe, tels qu'ils avaient déjà été inscrits dans le traité de Maastricht, tels qu'ils avaient été ensuite durcis par le pacte de convergence européen. Et aujourd'hui, donc, on a la troisième tentative d'essayer de dire qu'en Europe, la monnaie unique ne peut fonctionner que si les États sont rigoureux, d'une certaine façon. Et on accroît encore leur caractère rigoureux et orthodoxe en disant, eh bien, les nouvelles règles seront les suivantes, qu'on appelle règles d'or, et qu'on demande à chaque État d'inscrire dans leur propre constitution une règle d'or où on interdirait aux États de faire davantage de déficit que 0,5% du PIB annuellement. Alors que bon an mal an, ça a toujours été entre 2 ou 3 dans la zone euro avant la crise. Donc pas plus de 0,5% de déficit budgétaire annuel.
Donc c'est plus dur que Maastricht.
Ah, c'est beaucoup plus dur que Maastricht. Là, ça veut dire carrément budget en équilibre. Et le calcul de l'équilibre sera fait sur ce qu'ils appellent l'intégralité du cycle économique. Donc il faudra avoir été en plus et en moins, tel qu'à la fin du cycle économique, d'une montée et d'une descente de la conjoncture, on vous calcule que votre déficit public n'ait été que de 0,5. Bon. Et conjoncturellement, évidemment, on pourra avoir des plus et des moins, mais les moins conjoncturels ne pourront pas dépasser 3%. Et si une année vous avez fait 3%, il faudra que sur le cycle économique, vous ayez trouvé une année où vous aurez pu faire 3% d'excédent budgétaire. Voilà la règle, elle est donc extrêmement durcie, on pourrait l'appeler, sans trop exagérer, une règle de zéro déficit. Et puis on rappelle ensuite que les dettes publiques ne doivent pas dépasser 60% du PIB. Et la grande nouveauté, c'est qu'il y aurait des sanctions automatiques en cas de non-respect de ces critères, vérifiés donc ex post par les différents États. Alors, on ne connaît pas le montant des sanctions, ni exactement le mode, on ne connaît pas encore. C'est la façon dont ce sera administré. Voilà le dispositif, avec en amont de ce dispositif, un examen des budgets nationaux par la Commission européenne, avant même qu'ils soient votés par les parlements, pour que la Commission émette, j'imagine, des recommandations en disant « Ben non, écoutez, on ne croit pas un instant à la sincérité de votre budget, ce ne sera pas à l'équilibre, donc revoyez ceci ou cela ». Voilà le dispositif.
Il y a aussi la contrainte de ne pas émettre de dette sans consultation des autres membres de la zone euro, c'est ça ?
Alors là, je n'ai pas vu passer ça, mais bon, je vois pas, peut-être. Je ne sais pas, je n'ai pas vu passer ça.
Bon, il faut dire que le traité en question est encore en phase de discussion, hein, de rédaction.
Il est en phase de finalisation et de rédaction. Pour l'instant, il est dans la main des techniciens, comme on dit. Donc ça, c'est le centre du dispositif. Et il y avait deux petits à côté. C'est le bouclage du dispositif d'intervention et de renflouement, le fonds qui va succéder au Fonds européen de stabilité financière, qui sera le mécanisme européen de stabilité. Il sera doté finalement de 500 milliards d'euros pour remplacer un peu ce que faisait le Fonds européen de stabilité financière, c'est-à-dire pouvoir intervenir lorsque véritablement des États ne peuvent plus emprunter sur les marchés financiers parce que les taux d'intérêt auraient dépassé toutes les limites du raisonnable. Ce fonds, on en dira très peu de choses, mais 500 milliards, ça va être vraiment trop court, trop court tout de suite, puisque que l'on y songe, si l'Italie devait continuer à emprunter à 7%, elle ne le ferait pas sur les marchés financiers. Or, on y est là. Et l'année prochaine, l'Italie devra trouver 400 milliards d'euros à la fois pour financer son déficit et renouveler les dettes parvenues à échéance. Bon. Donc voilà, l'Italie boufferait, elle toute seule, l'ensemble des dotations du fonds si jamais elle était dans l'incapacité de s'endetter sur les marchés. Et puis autre point de ce sommet européen de décembre, les États européens abonderont au FMI pour 150 milliards d'euros pour que le FMI puisse réintervenir aussi pour sauver les États européens. Mais alors là, on a vraiment l'impression que c'est le serpent qui se mord la queue parce que ce sont des États déjà très endettés, déjà attaqués, qui prêtent au Fonds monétaire international pour que le Fonds monétaire international leur reprête. Donc je ne suis pas sûr qu'il y ait dans ces éléments-là le pare-feu, comme on dit dans la littérature, qui soit suffisant. Donc voilà où on en est sur ce sommet, c'est les faits. Et sur la politique monétaire, deux mots pour qu'on voit tout le tableau. La politique monétaire a été assouplie, les taux d'intérêt directeurs ont été abaissés de 0,25 points. La Banque Centrale Européenne a annoncé qu'il y aurait de nouveau deux grandes opérations de refinancement des banques à des taux d'intérêt défiant toute concurrence. On peut s'imaginer que ce sera de l'ordre de 1% et des prêts sur 3 ans, ce qui est complètement, jusqu'ici, là, exorbitant par rapport à tout ce qu'a déjà fait la BCE, puisque les deux dernières grandes opérations de refinancement avaient été faites sur 1 an. Là, ça veut vraiment dire que les banques ont trouvé des liquidités à volonté en plus. Hein, à volonté, tout ce qui sera demandé sera offert en prêt à ce taux d'intérêt-là. Et puis la Banque Centrale Européenne a encore assoupli les règles d'éligibilité de ce qu'on appelle les collatéraux. Bon, c'est un petit peu compliqué, mais quand les banques se font refinancer, elles doivent prêter des titres, donner des titres en gage à la BCE, et on abaisse la qualité des titres qui seront admis. Bon, voilà le tableau. Maintenant, ouais. Ce qu'il faudrait comprendre, c'est où on va.
Voilà. Alors, cet accord, un problème ou solution ? Franck ?
Certainement pas solution. Rien qu'un détail. Revenir à l'équilibre budgétaire, en tout cas approximativement sur la longueur du cycle économique, c'est-à-dire disons en moyenne. Hein, bon. Par quels moyens ? Par exemple, ça serait intéressant de distinguer en prélevant de nouveau l'impôt sur ceux qui peuvent payer ou en coupant dans les dépenses budgétaires et suivi lesquelles. Un objectif de déficit budgétaire en soi, c'est pas tellement, ça demande à être précisé. Par quels moyens on revient à l'équilibre budgétaire ? Et deuxièmement, est-ce que Le moyen le plus sûr de revenir à l'équilibre budgétaire, au-delà des modulations des dépenses et des recettes, c'est pas premièrement le retour de la croissance économique et deuxièmement l'abaissement des taux d'intérêt sur le stock de la dette publique existante. Est-ce que ces deux moyens-là ne sont pas prioritaires par rapport au seul qui semble privilégié, à savoir des coupes dans les dépenses publiques ? Donc dans l'ordre, moi, je dirais prendre toute mesure pour abaisser les taux d'intérêt sur les dettes publiques. Deuxièmement, imaginer des mesures pour retrouver de la croissance économique. Troisièmement, restructurer les systèmes fiscaux, prélever l'impôt, encore une fois, sur ceux qui peuvent le payer. Et puis peut-être en bout de course faire des arbitrages budgétaires au niveau des dépenses publiques, mais on a l'impression que c'est le quatrième et dernier moyen qui est toujours privilégié, les deux autres n'étant même pas évoqués, les trois autres n'étant même pas évoqués.
Oui, Laurent.
Et juste, enfin en complément, puisque là je suis évidemment tout à fait d'accord avec ce que dit Franck, en complément pour indiquer que justement cette solution qui est adoptée, toujours plus de rigueur et toujours plus de règles annonçant qu'on va être rigoureux, visiblement n'a pas produit l'effet que c'était censé produire, c'est-à-dire rassurer les marchés financiers, puisque c'est ça qui rythme la politique depuis 18 mois, parce que les taux d'intérêt ne se sont pas du tout calmés sur les dettes publiques. Ça veut dire que les prêteurs, les banques, les compagnies d'assurance, les fonds d'investissement, etc., ne croient pas que ces mesures sont de nature à faire revenir à l'équilibre budgétaire les États qui s'engagent à le faire. Pourquoi ? Bah parce que, comme dit Franck, dans certaines occasions, ils ne sont pas si bêtes que ça. Et eux-mêmes savent que des politiques de rigueur, surtout lorsqu'elles sont coordonnées en Europe, et qu'elles vont donc se produire de manière brutale et tout en même temps, sont de nature à casser la croissance. Et sans croissance, il n'y a pas de redressement des finances publiques. Et bon, et on y est déjà. On y est déjà. On a sous les yeux les nouvelles prévisions de croissance pour l'année prochaine. C'est zéro. 0% de croissance en Europe. Donc, 0% en Europe, avec 1,5% à 2% d'inflation, ça veut dire que les taux d'intérêt sont supérieurs à la croissance effective du PIB. Donc, il y a un effet d'emballement de la dette uniquement par les taux d'intérêt. Bon. Donc, les marchés financiers, ce qu'on vient de dire là, enfin, les marchés financiers, les acteurs sur les marchés financiers le savent très bien. Et donc, il n'y a rien dans ces mesures qui sont de nature à calmer leur panique et à faire revenir les taux d'intérêt à un niveau raisonnable. Donc on pourrait dire que toutes les cartouches ont été tirées, sauf une, qui est la cartouche qu'utilisent les États-Unis ou la Grande-Bretagne, qui est le rachat massif par la Banque centrale, en l'occurrence nous la Banque centrale européenne, des titres de la dette publique sur les marchés d'occasion, sur le marché secondaire, de manière à soutenir le cours de ces titres et à faire baisser le taux d'intérêt. Alors, rachat ou annonce de rachat
par
la Banque Centrale Européenne,
voilà.
Et par Mario Draghi, parce que c'est lui qui peut le faire. Alors, c'est la dernière cartouche, parce qu'on ne peut pas imaginer, enfin, dans le cadre actuel, là, pour le coup, des traités, qu'il y ait des prêts directs aux États. Donc, c'est par l'intermédiaire du marché d'occasion que la Banque centrale pourrait soutenir le cours des titres en les rachetant. Ça ferait diminuer le taux d'intérêt et surtout, ça ferait comprendre à l'ensemble des détenteurs des dettes publiques que si le cours des titres s'effondrait encore, il y aurait un acteur qui pourrait soutenir le cours de ces titres et leur éviter de faire des pertes. Donc, ce serait ça, sans doute, de nature à rassurer l'ensemble des marchés, puisqu'on en est là, je veux dire, c'est ça dont on parle aujourd'hui, rassurer les marchés. Or, Mario Draghi, pour l'instant, continue à se retrancher, soi-disant, derrière les traités de l'Union européenne, le traité de Lisbonne, et derrière les statuts de la Banque centrale européenne, pour dire on ne peut pas, la Banque centrale ne peut pas venir au secours des États et ne peut pas financer leurs déficits. C'est exactement les mots qu'il emploie. Et pour l'instant, c'est doublement aberrant, cette position. Pourquoi c'est aberrant ? Premièrement, bon, on pourrait dire qu'ils l'ont déjà fait. Donc il y a certaines digues qui ont quand même sauté. Il y a eu un programme déjà de rachat des dettes publiques. Bon, il a été modeste, 200 milliards d'euros. Lorsque on sait que la réserve fédérale a fait deux fois 600 milliards de dollars. Donc Mais il y a déjà eu un plan de rachat des titres de la dette publique. Alors là, Mario Draghi dit oui, mais enfin, ça doit être exceptionnel, et puis c'est limité, et puis etc. Et puis surtout, les traités n'interdisent pas de faire ça. Ce que les traités interdisent, c'est que la Banque Centrale Européenne prête directement à un État au moment où il émet sa dette, mais n'interdit pas à la BCE d'acheter les titres d'occasion pardon, pour soutenir les cours de la dette. Donc on ne sait pas quel jeu il joue, et sans doute il attendait que le nouveau plan pacte budgétaire calme les choses, mais pour l'instant, ça va être, enfin, maintenant c'est à lui de jouer.
Alors cette demande justement qu'il y ait intervention de la Banque Centrale Européenne, rachat de la dette des États sur les marchés d'occasion, c'est une demande qui devient de plus en plus pressante quand même, qui devient même lancinante. Pourquoi la BCE ne bouge pas? Et donc je me demande pourquoi elle ne le fait pas, par idéologie, par quel calcul économique? Et puis une deuxième question annexe, peut-être naïve, si la Banque Centrale Européenne rachetait la dette des États sur le marché secondaire, elle le ferait avec quel argent? Est-ce qu'elle crée de la monnaie? Est-ce que c'est ça le mécanisme, ou c'est le même principe que une banque centrale nationale qui prête, elle crée de la monnaie? Franck.
C'est en prêtant qu'elle crée de la monnaie. C'est le principe général de la monnaie moderne, qui est, comme on dit, une monnaie de pur crédit. C'est-à-dire que c'est en... Et ce principe qui fonctionne pour les banques centrales fonctionne également pour les banques commerciales, celles qui prêtent directement aux ménages et beaucoup plus aux entreprises. C'est le principe même de la monnaie moderne. Un historien de l'économie l'a résumé par cette formule un petit peu paradoxale en disant si vous n'avez pas suffisamment de monnaie pour régler vos dettes, vous n'avez qu'à payer avec vos dettes. C'est ce que font les banques et au premier rang desquelles les banques commerciales, effectivement. Alors pourquoi la BCE ne le fait pas? Je crois que là, tout le monde s'accorde pour dire que la position allemande est quand même prédominante. C'est, semble-t-il, la peur phobique de l'inflation. Et c'est là que s'opposent véritablement les deux théories monétaires. Les uns disent c'est l'injection d'une quantité de monnaie excessive dans l'économie qui crée de l'inflation, et d'autres disent pas du tout, la création monétaire n'a rien à voir avec l'inflation, et s'il y a une relation entre les deux, elle est peut-être même dans l'autre sens, c'est-à-dire c'est quand il y a de l'inflation qu'il y a une création monétaire qui suit l'inflation. En gros, disons que essentiellement, la cause essentielle de l'inflation dans nos économies capitalistes développées, c'est l'augmentation des salaires monétaires. Une augmentation des salaires monétaires, disons, qui va plus vite que l'augmentation de la productivité du travail, pour simplifier. Mais bon, il y a d'autres formes d'inflation, mais aucune n'est directement liée aux interventions de la Banque centrale, quelle que soit la forme que revêt ces interventions.
Alors Franck, pour toi aussi, l'intervention de la Banque Centrale Européenne, c'est la clé?
C'est une
des clés au moins.
C'est la clé d'urgence, oui.
D'urgence.
Oui.
D'accord.
Mais c'est la condition, c'est à la fois une solution de première urgence, mais comme c'est une solution d'urgence, c'est une condition absolument nécessaire pour ensuite mettre en œuvre d'autres mesures visant à régler plus à fond les problèmes. Mais tant que l'urgence ne sera pas traitée, il n'est pas question d'aller plus au fond dans le traitement du problème.
Alors bon, vous l'avez indiqué, l'Angleterre pratique ce genre de dispositif. Leur banque centrale prête à l'État. Et c'est aussi le cas des États-Unis. Et pourtant, ces deux pays ont une dette plus élevé en pourcentage du PIB que les pays de la zone euro.
Oui, Et pas beaucoup plus d'inflation. Enfin, il y a un petit peu plus d'inflation en Angleterre que dans les autres pays de la zone euro. Bon, enfin, pour l'instant, ça reste complètement sous contrôle. Et aux États-Unis, absolument pas d'inflation. Et d'ailleurs, peut-être que quelque chose qui va finir par convaincre Mario Draghi et les Allemands, c'est que, bon, leur crainte, c'est que, ce que Franck l'a dit, c'est qu'en rachetant les titres de la dette publique, la Banque Centrale Européenne crée de la monnaie. Elle achète ses titres avec de la monnaie qu'elle crée. Et cette monnaie, c'est une espèce de concentré de monnaie. La monnaie créée par la Banque Centrale Européenne. Parce qu'à partir de ce concentré de monnaie, les banques commerciales ont la possibilité de créer encore beaucoup plus de crédits. Voilà. C'est une espèce de truc qu'on peut diluer. Alors bon, c'est un petit peu compliqué à expliquer ici, mais c'est à partir de cette liquidité de la Banque Centrale que les banques commerciales peuvent octroyer des crédits sans avoir ensuite besoin, évidemment, de se refinancer par des moyens onéreux. Donc ce qu'ils craignent, voilà, c'est qu'en faisant ça par l'intermédiaire de la Banque Centrale, on démultiplie la capacité de crédit des banques, et ce que disait Franck, et donc ceci alimente leur peur phobique de trop de monnaie en circulation. Mais l'argument est pour le coup devient de plus en plus bancal à partir du moment où aujourd'hui, en fait, il y a déjà entre guillemets un excès de liquidité, et les banques commerciales déposent ces excès de liquidité sur leur compte auprès de la Banque Centrale et n'en font rien. Bon, pourquoi ? Parce que dans la période actuelle, elle aussi, elle cherche à se désendetter, malheureusement. Et on assiste en même temps à un credit crunch, c'est-à-dire qu'elles ne prêtent plus. Elles essaient de réduire la taille de leur bilan, de diminuer leurs risques. Et donc, il y a 350 milliards de liquidités stérilisées à la Banque Centrale qu'elles n'utilisent pas. Donc, si on en remettait 400 ou 600 ou 1000, ces liquidités resteraient là. Les banques ne se mettraient pas à faire du crédit à tout va à l'économie. Pour l'instant, c'est exactement la position inverse dans laquelle elles sont. Elles ont peur de prêter. Bon. Donc, il n'y a aucun problème. Et ensuite, ces liquidités, si elles sont en trop grand nombre, on peut les reprendre par d'autres moyens qui sont disponibles. Donc peut-être que ça pourrait être un jour convaincant aux yeux des Allemands, mais si nous étions dans un débat purement rationnel.
Bon, en tout cas, ce type de dispositif là, au niveau européen, va accroître donc les politiques de rigueur, de restrictions sociales, etc. Donc ça va encore freiner la croissance, et même ça va instaurer la récession généralisée. Mais y compris l'Allemagne va en pâtir, puisqu'elle exporte en grande majorité vers les autres pays d'Europe. Les autres pays d'Europe n'ayant plus les capacités d'acheter, l'Allemagne va y coper aussi.
Elle va, sans contredit, elle va en souffrir, et peut-être même plus que les autres. Et d'ailleurs, beaucoup d'économistes commencent à dire que les taux d'intérêt sur la dette publique allemande vont aussi se mettre à grimper assez rapidement, parce que ce sera au bout du compte de nouveau le réceptacle de tout ça, puisqu'avec une croissance très faible du chômage, des revenus qui sont eux-mêmes stagnants, le déficit de l'Allemagne risque de nouveau de se creuser.
Alors ce pacte européen, même de son propre point de vue, de sa logique, est-ce qu'il a des chances de se mettre en place? Est-ce que l'explosion du système européen ne va pas aller plus vite que la mise en place de ce pacte?
C'est pas du tout impossible à partir du moment où les analyses qu'on fait ici, les opérateurs, comme on dit, des marchés financiers, les ont faites avant nous. Donc, lorsqu'eux-mêmes seront complètement dégrisés, et surtout qu'ils auront recréé entre eux un consensus, parce que ça peut prendre quelques jours ou quelques mois pour que, à travers les bruits de couloir, à travers les prises de position des uns et des autres, à travers les opérations qu'ils font sur les marchés, ils arrivent à se convaincre mutuellement qu'il y en a un ou deux ou trois qui ont la bonne analyse, et à la fin c'est cette analyse qui prédomine comme une convention temporaire dans les salles de marché, et si c'est celle suivant laquelle non, tout ce qui a été décidé le 9 décembre à Bruxelles, ça ne suffira pas et ça part dans la mauvaise direction, ça peut aller très vite, hein, avant le mois de mars, parce que tout ça devrait être bouclé normalement pour le mois de mars, mais ils n'auront effectivement peut-être pas le temps de boucler.
Un dernier mot peut-être sur la situation économique en Europe. C'est, pour vous, c'est la récession généralisée. La montée du chômage, elle est évidente déjà dès maintenant. Est-ce que ça, c'est pas des facteurs énormes d'explosion sociale, Franck?
Si, mais sous quelle forme? On a vu qu'en Grèce, il y a eu d'une certaine façon des bouffées d'explosion sociale, mais sans aucune espèce de débouché. C'est-à-dire la situation est plus désespérée qu'explosive. Et donc, de ce côté-là, je dirais qu'il n'y a pas non plus grand-chose à attendre.
Mais là, on se dit que quand même que là, ce qui est en jeu, c'est le cœur même du système européen. C'est-à-dire, il y a la France, il y a l'Italie, la France, l'Allemagne. Ça, c'est, je sais pas combien ça représente de pourcentage du PIB de l'Europe ou de la zone euro, mais c'est un gros machin. C'est pas la Grèce. C'est pas 2%, non, la Grèce, 3%.
Oui, c'est 2% du PIB européen. Oui, non, mais ce qui pourrait se produire, malheureusement, c'est que ces contestations sociales ou ces révoltes, il y en aura, on peut penser qu'elles se produiront à retardement. C'est-à-dire vraiment quand la situation aura pu devenir extrêmement dramatique. C'est-à-dire une forte poussée du chômage, des baisses de salaires dans certains pays, des reculs des droits sociaux et surtout, pourquoi pas, des paniques bancaires et financières. Parce que pour l'instant, il y en a qui sont sages, c'est nous, c'est les gens du public. Les gens ne sont pas allés retirer leurs dépôts dans les banques. Mais si on se retrouvait dans le même état de panique financière qu'en Argentine en 2001-2002, là, ça devient absolument catastrophique. C'est-à-dire que toute l'économie est mise à bas par une crise de liquidité généralisée, les gens cherchant à récupérer leurs avoirs, et ils n'existent pas. Bon, à moins que la Banque Centrale Européenne remplace tous les dépôts monétaires par des billets de banque et fasse refluer l'ensemble des actifs dans son bilan. Enfin, on voit bien que Mario Draghi n'est pas encore sur cette pente. Donc ça peut être extrêmement catastrophique, et les gens se révolteront quand on bloquera leurs comptes. Et qu'on dira, bah non, vous n'avez plus le droit de toucher à l'argent que vous avez sur votre compte, et puis vous n'avez plus le droit de sortir cet argent du pays, etc. Et là, ce sera trop tard, d'une certaine façon.
Alors peut-être, fort à propos, on va avoir un petit éclairage philosophique sur la notion de souveraineté, juste après une petite pause musicale.
Del río se sienta y llora, a la puerta del río se sienta y llora. Tiene el marido viejo la picarona, tiene el marido viejo la picarona. Y a la puerta del río está una lagua. A la puerta del río está una lagua, peinando sus cabellos, cogiendo el ámbar, peinando sus cabellos, cogiendo el ámbar. Y anoche y antinoche, parió me Roma. Y anoche y antinoche, parió me Roma. 25 ratones y una paloma. Thank you.
magazine Tumult sur Radio PFM 99.9, libre et sans pub. Deux invités, Laurent Cordonnier et Franck Van Vleel, tous les deux économistes et enseignants à l'Université Lille 1. Et un troisième, Philippe Ledoussel, qui lui enseigne la philosophie. Et Philippe nous propose un éclairage philosophique sur la notion de souveraineté. Philippe.
Oui, alors, bon, cette notion de souveraineté, donc on en entend beaucoup parler aujourd'hui, quoi. Enfin, c'est quelque chose qui revient. D'ailleurs, là, on voit bien que les questions qui sont posées sur ces traités, sur les formes de politique qui sont mises en place, renvoient aussi à cette question-là. Bon, si on prend des exemples, là, on voit bien que, par exemple, on parlera de la question, par exemple, de la perte de souveraineté populaire ou de la question de la souveraineté populaire. Bon, la question du référendum en Grèce, par exemple, a posé, du possible référendum qui n'a jamais eu lieu, finalement, a posé cette question, quoi. Enfin, on a vu que tout de suite, c'était ce qu'il ne fallait pas mettre en œuvre, pour les dirigeants européens. De la même façon, par exemple, la question du gouvernement Monti aujourd'hui en Italie, nous est présenté donc comme un gouvernement technique, n'aura pas de compte à rendre devant les peuples. Bon, alors donc si on revient sur cette question sur la notion même de souveraineté, du coup, bon, déjà la première chose, c'est que la notion de souveraineté, elle est c'est vraiment une notion qui apparaît dans la philosophie et la philosophie politique avec la modernité. C'est-à-dire qu'elle apparaît de manière centrale au XVIe siècle avec la Renaissance et déjà un peu chez Machiavel et après notamment chez un Jean Bodin qui a été celui qui a vraiment pour la première fois mis en place cette notion de souveraineté. Donc autrement dit, elle est liée à la naissance des États modernes. On peut dire aussi du capitalisme moderne. Enfin, elle apparaît à ce moment-là. Alors, ça vient du latin. Bon, ça veut dire ce qui est supérieur, tout simplement. Au départ, à l'origine, c'est ça. Donc, autrement dit, le souverain, c'est ce qui est le plus élevé. Et c'est une sorte, c'est celui qui surplombe. C'est le sujet absolu, d'une certaine façon. Bon. Alors, Bodin, il disait, la souveraineté, c'est la puissance absolue et perpétuelle d'une république. Bon, c'est la définition qu'il donne. Donc autrement dit, c'est une autorité, c'est le fondement d'une autorité, c'est ce qui la fonde, et c'est sur un territoire ou un certain nombre de peuples. Alors, la question, du coup, on voit que la question pour la modernité, pour nous jusqu'à aujourd'hui, c'est pas tellement la question traditionnelle de la philosophie politique de l'Antiquité, du Moyen-Âge, qui était quelle est la forme juste de gouvernement, c'est qui a le pouvoir, qui détient l'autorité, et qui est le souverain, quoi. Et comment s'est conférée cette autorité, par quel mécanisme. Bon. Donc, autrement dit, on voit que cette notion de souveraineté, donc, elle est née en même temps que elle accompagne les États, le système moderne des États, qui est fondé sur deux éléments. Hein. La souveraineté, elle a deux aspects. Un aspect extérieur, c'est-à-dire c'est l'indépendance. Hein, on traite d'égal à égal avec d'autres États, et un aspect intérieur qui est l'autonomie, la possibilité de faire ses propres lois et de les appliquer sur un territoire. Bon. Alors évidemment, tout ça, c'est certes lié à... Bon, c'est un débat qu'on pourrait avoir, mais évidemment, le problème, c'est que, bien sûr, les États accèdent à une souveraineté, mais enfin, il y a des États forts et des États faibles. Ça n'empêche pas qu'il y ait des États qui se mettent en place et qui soient des États qui ont aussi des empires coloniaux, etc., etc. Donc, autrement dit, bon. Mais l'autre point important sur la notion de souveraineté, c'est qu'elle est, d'une certaine façon, le souverain, il se fonde lui-même. C'est-à-dire qu'il se fonde par un... Il peut avoir plusieurs formes, ça peut être un prince, ça peut être un conseil, des assemblées, le peuple lui-même, etc. Hein, mais il commence par s'instituer lui-même. Autrement dit, ça, c'est le fait qu'il se réfère... Il n'a pas d'autre référent que lui-même, il n'a pas de référent divin, il n'a pas une autorité préalable qui serait établie. Il doit se constituer. Hein, c'est d'ailleurs le rôle de la Constitution que de constituer le souverain. Donc on peut dire que d'une certaine façon, la souveraineté moderne, elle est créée, quoi. Elle ne renvoie pas à une norme préétablie. Le peuple, en quelque sorte, par exemple, c'est dans la souveraineté populaire, le peuple se constitue lui-même dans l'acte par lequel il devient souverain. Bon, c'est une espèce de création, quoi. Alors, Et ça, évidemment, bon, si on prend, si on prend par exemple, pour la souveraineté, par exemple, en France, telle qu'on la connaît, etc., bon, la période, évidemment, centrale, c'est la période de la Révolution française. Et là, c'est intéressant parce qu'il y a deux éléments qui se mettent en place dans la notion de souveraineté. Il y a la souveraineté nationale, c'est-à-dire l'idée de la souveraineté de la nation. Mais la nation, c'est une entité abstraite, évidemment. La nation, c'est à la fois les citoyens qui ont existé avant nous et ceux qui existeront après nous. Donc, ça veut dire que la nation, elle doit forcément être représentée, quoi. Et donc, la souveraineté nationale s'accompagne forcément d'une démocratie représentative. Et les représentants ne représentent pas, ne représentent pas leurs électeurs. Ils représentent la nation souveraine, c'est-à-dire ils représentent la nation et ses intérêts, bon, qui peuvent être très bien parfois en contradiction avec ce que leur demandent leurs électeurs. Bon. Et l'autre notion, évidemment, c'est celle de souveraineté populaire, bon, dont Rousseau est le représentant le plus évident, hein, qui avait plutôt... On va dire que c'était les radicaux de la Révolution, quoi, qui défendaient plutôt cette idée, et qui débouche évidemment sur la démocratie directe, parce que là, c'est le peuple lui-même, hein, qui est la totalité concrète des citoyens, bon, et qui est souverain, et qui doit donc être souverain directement. Alors évidemment, il ne peut pas forcément l'être tout le temps, donc il lui faut quand même des représentants, mais il faut à ce moment-là que les mandats soient impératifs, qu'il y ait un contrôle permanent, bon. Et évidemment, cette souveraineté populaire se fonde dans un contrat, hein, le contrat social de Rousseau, qui est un événement. C'est-à-dire que, là encore, le peuple existe à partir du moment où il se donne, où il devient souverain. Bon. Donc, évidemment, ça pose une question sur la souveraineté populaire. Donc, il peut y avoir des tensions entre ces deux notions de souveraineté. Hein. La Constitution de la Ve République, par exemple, elle se réfère un peu aux deux. Il y a à la fois la référence à la nation, mais le suffrage universel ou l'élection directe du président au suffrage universel, par exemple, c'est plutôt un renvoi à la souveraineté populaire. Bon, alors, mais évidemment, la question après, c'est qu'est-ce que c'est qu'un peuple, quoi. Et à partir de, par exemple, dans la souveraineté populaire, à partir de quand il est présent, etc. Alors aujourd'hui, par exemple, je ne sais pas, le peuple, c'est quoi ? C'est le peuple le peuple, il peut très bien décider de se donner un souverain qui décidera tout pour lui, etc. Bon, il peut aussi se donner des représentants qui représentent le souverain, la nation, bon. Etc. Et puis il peut être le peuple souverain lui-même, ça peut être le peuple insurgé qui, après tout, est le lieu de la... Hein, il est où, le peuple ? Il est dans les... Au moment où on vote, il est dans les... Dans le moment où ils prennent, je ne sais pas moi, ils descendent dans la rue, comme en Tunisie, etc. Bon. Hein, on voit bien, par exemple, qu'on pourrait d'ailleurs analyser ces tensions, par exemple, en Tunisie, entre la rue, le vote, posant la question de la souveraineté populaire, quoi. Où est-elle ? Bon, et donc, après, maintenant, si on en revient à la situation actuelle, bon, on voit bien que c'est toute la question qui est opposée, parce que... si on prend les gouvernements qui sont mis en place, qui se mettent en place au fur et à mesure de la crise de la dette, donc on revient à ça, qui est souverain, c'est-à-dire qui a le pouvoir ? C'est ça la question centrale. Et alors, bon, on a parlé de la Grèce tout à l'heure et de la contestation populaire, etc. Bon, on voit bien que la situation en Grèce, c'est que le gouvernement d'union nationale... Bon, il représente l'intérêt de la nation, mais en même temps, il est mis en place, finalement, et il est sous la houlette, sous la direction, quasiment, de la Troïka et de l'Europe, quoi. Enfin, bon, de la Commission européenne, des différents représentants de l'Europe. Le référendum n'a pas pu avoir lieu, parce que, bien évidemment, c'était la manifestation directe de la souveraineté populaire et qu'on pouvait en attendre des résultats qui n'auraient pas été conformes, etc. Bon. Donc, évidemment, c'est de la même façon bon, pour le gouvernement italien. Et donc, juste pour finir là-dessus, évidemment, la question aujourd'hui, c'est du coup deux choses. Bon, d'abord, il peut y avoir l'idée d'un repli souverainiste, comme on dit, c'est-à-dire, on va se replier sur la nation pour se sortir finalement des pertes de souveraineté en croyant que la nation en tant que telle serait une forme plus démocratique qui nous permettrait d'exercer vraiment le pouvoir, ce qui est tout à fait discutable en réalité. Bon. Et d'autre part, évidemment, c'est cette question d'une souveraineté qui échappe complètement à des contrôles politiques, c'est-à-dire au fond une espèce de souveraineté, hein, je ne sais pas moi, des intérêts économiques ou même le capital lui-même qui deviendrait souverain. Alors ça pose toute la question sur laquelle on ne va pas revenir, de la mondialisation aujourd'hui, des frontières des États, des contrôles, etc.
Eh bien voilà, alors qui rebondit ? Laurent, Franck ?
Ben, Laurent. Je rebondis avec une première question. J'ai compris beaucoup de choses que je n'avais pas comprises, mais il y a une chose qui m'a paru bizarre quand même. La notion peut-être est tardive, mais les souverains, les rois de France, César, c'était des souverains quand même. Et donc, ils tiraient leur souveraineté de quoi ?
Bon, bah, pour les rois de France, je ne veux pas dire de bêtises, mais enfin, ce qui est sûr, par exemple, c'est que la référence à une autorité déjà établie, c'est-à-dire la référence religieuse, par exemple, a joué un rôle de passage. C'est-à-dire que, finalement, le souverain, il était lié quand même à toute une série, dans les liens féodaux, il était lié à toute une série de liens déjà préexistants, c'est-à-dire qu'il ne s'institue pas lui-même directement. Ou alors il représente une autorité surhumaine, divine. Et en fait, le souverain de droit divin, ça a été un peu apparemment l'espèce de mixte, quoi. C'est-à-dire que la figure du souverain s'est constituée comme... c'est donné cette autorité, mais du coup pour prendre des aspects de l'autorité religieuse ou divine. Et la notion de souveraineté suppose quand même un État, une nation, un territoire. C'est pas l'Empire, par exemple. L'Empire, c'est pas le modèle de la souveraineté.
Laurent, ça te laisse quoi ?
Non, mais je... peut-être que je confonds trop dans ma tête l'idée de pouvoir... Et l'idée de souveraineté, c'est sans doute ça qui me rend difficile de tout comprendre. Ça me soulevait une autre réflexion, ce que tu disais, c'est que oui, aujourd'hui, la souveraineté est vraiment en question. Elle est en question non seulement parce qu'il y a différents échelons auxquels, territoriaux et puis politiques, disons, auxquels elle est censée se référer. Donc toi, tu as fait le balancement entre... les souverainistes et puis disons l'Europe, pour aller vite, parce que c'est quand même un cas de figure tout à fait exemplaire. C'est quand même un beau problème, un bel endroit. Est-ce que véritablement il y a une souveraineté européenne ? Donc les souverainistes, ce ne sont pas forcément des gens qui prônent un repli sur soi. Ça peut être des gens qui se disent, là où elle peut encore s'exercer, c'est peut-être là. Et ce que vous nous avez fait miroiter, c'est une forme de chose impuissante. Et une forme de chose impuissante qui a remis la souveraineté dans les marchés. Et donc qui nous a rendu finalement, qui a dépossédé les peuples de leur capacité d'agir. Donc première remarque. Deuxième remarque, c'est qu'effectivement c'est pas non plus facile de prôner le repli sur l'État national, parce que lui-même il a été capturé par les néolibéraux. Donc les néolibéraux qui l'ont mis sous la coupe des marchés, et puis aussi qui ont fait leur tambouille avec l'État. Enfin, juste un seul exemple, parce que c'est quand même dans l'actualité. On parlait ces jours-ci d'un partenariat public-privé pour l'hôpital d'Evry, si ma mémoire est bonne, où l'État a délégué la construction d'un hôpital à Eiffage. L'hôpital, il n'est toujours pas fonctionnel depuis 18 mois, mais l'État est obligé, évidemment, par le contrat qu'il a signé, de payer des loyers à Eiffage. Alors ça, si c'est pas un bel exemple de fait que la souveraineté s'est complètement retournée, c'est celui qui tient l'État dans ses mains et qui peut lui faire payer exactement ce qu'il veut, c'est fâche. Donc il y a deux problèmes, c'est les échelons territoriaux où on ne sait plus bien où c'est, et puis ensuite, disons rapidement, politique marché.
Une intervention de Franck, puis après on demandera à Philippe de reprendre un peu le tout. Franck ?
Oui, moi, il y a une chose qui m'a frappé, c'est le caractère relativement moderne de la notion de souveraineté. Et si j'ai bien compris, une conception moderne qui s'oppose, qui se distingue, qui a rompu avec une conception antique, celle de la bonne forme de gouvernement. Et a priori, sans y avoir beaucoup réfléchi et très spontanément, j'aurais plus d'attirance, d'affection a priori pour cette manière antique de poser les problèmes qui me semble beaucoup plus modeste. Comment dire, je trouve que la notion de souveraineté, c'est peut-être l'un des problèmes actuellement, elle est surinvestie. C'est-à-dire, c'est une façon, et ça pose problème, le fait que, oui, le peuple est souverain encore, et il est tellement malmené par les temps qui courent. Et donc, en revenir à des formes de à des réflexions sur les formes de gouvernement plus modestes, en disant, bah, le gouvernement, c'est pas le moyen de la liberté du peuple, c'est le moyen d'éviter les catastrophes sociales, tout simplement. Et puis, la liberté, elle est ailleurs que dans les formes de gouvernement. A priori, ça me paraît peut-être un gars, mais plus modeste. Et donc... moins dangereux.
Alors Philippe, ces rebonds.
La première chose, c'est qu'évidemment, il y a un paradoxe. C'est parce que, par exemple, sur la question européenne, bon, la logique voudrait que si on allait vers une Europe qui est une forme de souveraineté, c'eût été que on commence par avoir des traités intergouvernementaux, puis à un moment donné, on a une constitution, donc finalement quelque chose qui... Bon, et que ça se passe dans ce sens-là. Aujourd'hui, on a le sentiment que c'est exactement l'inverse qui se passe, c'est-à-dire que on a passé un certain nombre de traités, on a créé une monnaie unique, etc. Et maintenant, finalement, on va faire... Ce sont ces éléments qui vont nous dire ce qu'il faut mettre dans la constitution, ce qui est quand même un retournement presque hallucinant. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose là de difficilement compréhensible, presque. Enfin, bon, en tout cas, on voit bien que c'est sans doute pas ce qui avait été prévu dans ce qu'ils avaient imaginé au départ, quoi. Bon, après, la notion de souveraineté, c'est une notion, qui a une part un peu énigmatique. Hein, ça, bon, après, est-ce qu'on peut, de toute façon, bon, je crois qu'on peut pas revenir. C'est-à-dire que il y a bien des choses qui se sont constituées, il y a bien des notions, enfin des formes réelles qui sont apparues à partir de cette notion de souveraineté. Moi, j'ai pas de sympathie particulière pour la notion de souverain, parce que la notion de souverain, elle est profondément, c'est quand même l'idée d'unification. Et on voit bien, par exemple, la souveraineté nationale, c'est quand même l'idée d'une unification dans une abstraction, etc. Et même la souveraineté populaire, parce que au fond, la loi ne se trompe jamais, chez Rousseau, par exemple, hein, à partir du moment où la manifestation de la volonté générale, elle a raison. Bon, et elle a raison de par le propre fait qu'elle est ce qu'elle est, quoi. Bon, alors il y a quand même des vrais problèmes. Bon, il y avait dans les premiers textes de Marx, par exemple, il y avait une formule qui disait que le peuple représenté est un peuple parfaitement abstrait qui n'est plus le peuple, quoi. Et effectivement, on peut se poser cette question-là. Maintenant, je pense que aujourd'hui, on n'échappera pas à cette question-là de la souveraineté, parce que ce qui se passe quand même, en tout cas de la souveraineté populaire, qui est quand même un élément fondateur de la démocratie, parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est quand même qu'on... Les traités qui sont mis en place, là, etc., c'est quand même, on est dans l'ère post-démocratique, quoi. C'est-à-dire que, enfin, c'est Habermas qui disait ça, je crois, le philosophe allemand, qui dit ça. Il dit, on est en train de passer dans quelque chose où il n'y a plus réellement de pouvoir démocratique. Alors, évidemment, il peut y avoir un pouvoir démocratique à l'athénienne, etc., mais enfin, je ne sais pas si c'est des formes actualisables.
Alors, Laurent
Ben non, j'écoutais ça avec un petit peu, de consternation, quoi. À la fin, c'est le même jugement un peu catastrophé qui ressort de la crise, hein. C'est-à-dire comment les situations qui nous échappent maintenant, Parce que ce qui a été créé, ce qui a été créé à un moment paraissait une forme plausible à la fois de gouvernement et de démocratie ou de post-démocratie. Mais aujourd'hui, on se demande vraiment comment les choses peuvent redémarrer, comment elles peuvent être prises. Et bon, j'ai écouté la remarque de Franck, mais je crois entendre dans ta remarque quelque chose, une chose avec laquelle je suis plutôt en sympathie, c'est que il peut y avoir une forme de naïveté ou de gâtisme à énoncer de manière belle âme et sans lui donner de contenu et sans la qualifier que la souveraineté dans le peuple, parce que bon, le peuple, tant qu'il n'est pas institué, tant qu'il n'est pas éduqué, tant qu'il n'est pas formé politiquement, il est souverain de rien, quoi, de son choix entre H&M et Darty. Bon. Et c'est ça qu'on a fait du peuple. C'est ça qu'on a fait du peuple après 30 ans ou 40 ans de néolibéralisme. Donc le terreau pour redémarrer, je comprends qu'il te laisse sceptique parce qu'il a été détruit. Mais en même temps, ça pourrait repartir comment ? Enfin, ça ne peut pas repartir avec des élites. Ça ne peut pas repartir... bon, voilà.
Je ne suis pas persuadé que ça ne puisse pas repartir avec des élites. Le problème, c'est que les élites ne sont pas au rendez-vous. Mais
elles ont été du côté de ceux qui ont capté l'État, quand même.
Oui, bon, il s'agit de savoir quelles élites. Mais le gouvernement des meilleurs, a priori, ce n'est pas une forme de gouvernement à exclure absolument.
Non, mais moi, je pense que c'est le problème de fond. C'est-à-dire que... Mais c'est un problème qui n'est pas nouveau. C'est-à-dire que c'est le problème même de l'instauration de la souveraineté populaire. C'est-à-dire que pour qu'un peuple soit libre, il faut qu'il soit déjà libre avant d'être libre. Mmh. Bon. Mais il faut qu'il soit déjà... c'est tout le problème du XVIIIe siècle, du monarque éclairé. Comment on va faire pour amener les gens, à la liberté. Mais je pense que d'une certaine façon, le propre effectivement de ce type de constitution, alors là, si on parle vraiment de la souveraineté populaire, etc., c'est de penser qu'il peut y avoir un événement, enfin qu'il y a un pouvoir constituant qui peut avoir lieu, quoi. Alors, et ce pouvoir constituant, il est forcément quelque chose qui remet en cause l'ordre des choses tel qu'il est à ce moment-là. Bon. Alors là-dessus, est-ce qu'un peuple peut devenir libre ? Moi, je pense que oui. Mais qu'est-ce que c'est un peuple alors ? Voilà, un peuple européen, etc. Bon, il y a d'autres questions qui se posent, hein, parce qu'on n'est plus, je crois, dans la situation. On a changé de situation historique aussi. Aujourd'hui, on a affaire à des ensembles plus vastes. Les États-nations ont changé. La situation du monde n'est plus du tout celle dans laquelle.
Là, il faudra le reprendre, ça, cette question, parce que ça mérite aussi d'être discuté.
On a mis le doigt là, sur un sujet épineux. Alors, moi, je me demandais, bon, il nous reste 1 minute, 2 minutes, là, je me demandais si, justement, je reviens à un peu ce qui a été dit dans la première partie, enfin, la question que je posais, est-ce qu'on n'est pas au cœur de l'implosion du système européen tel qu'il s'est constitué, avec quand même les États noyaux, France, Allemagne, Italie, etc., qui vont être dans une situation extrêmement... compliqué avec des situations de panique où tout finalement va s'écrouler. Est-ce qu'on va pas être dans une situation comme ça où finalement là il peut y avoir une situation où les populations sont obligées de faire face à elles-mêmes. Et est-ce qu'on n'aurait pas par exemple des phénomènes comme il me semble qu'il y a eu un peu en Argentine quand ça a été la crise très dure avec où les gens sont obligés de s'auto-organiser et de recréer quelque chose qui sera peut-être constituant comme tu disais Philippe.
Oui, là, oui, c'est un pari. C'est un pari. Non, ce qui pourrait quand même se produire d'inédit, c'est que ça va toucher concomitamment une quinzaine ou une vingtaine de peuples européens avec quand même des petites bougies qui se sont allumées à droite à gauche, en Grèce, en Espagne avec le mouvement des indignés, mais aussi des mouvements sociaux qui continuent en France, dont on ne parle pas beaucoup, mais il y en a, des mouvements pour les salaires, des mouvements pour les conditions de travail, etc. Donc il y a quand même de la braise au-dessus des cendres, et ça pourrait créer effectivement quelque chose d'inédit, une espèce de mouvement social, pas européen dans le sens où il ne serait pas européiste, mais dans le sens où il serait coordonné et simultané en Europe, ça pourrait peut-être faire tanguer la machine.
Un dernier mot rapidement, Franck, et puis un dernier mot, Philippe.
Oui, la réflexion de tout à l'heure, ça me faisait penser à quelque chose qu'on raconte à propos des pères fondateurs de la Constitution américaine, qui pensaient au très profond d'eux-mêmes que la véritable démocratie était incompatible avec le salariat, c'est-à-dire avec le travail stipendié. Et donc, je crois qu'il faut réfléchir sans préjuger aux conditions effectives de la vraie démocratie et pas se contenter de dire des élections libres, c'est le nec plus ultra et c'est la fin de la démocratie.
Philippe, les mots de conclusion.
Moi, je suis d'accord avec les deux. Je pense que les deux choses qui viennent d'être dites, c'est-à-dire, je pense qu'effectivement, maintenant, la question, c'est qu'est-ce qui peut naître de cette situation et qu'est-ce qui peut naître du fait que des peuples, à un moment donné, ont une situation commune. Est-ce que de ça peut naître des nouveaux sujets Et après, oui, les conditions. Moi, je suis d'accord que les élections. Les élections libres sont pas. D'ailleurs, les élections libres, il faudrait même dire ce que ça veut dire, parce que, au fond, les élections libres, je sais pas moi, quand on passe son temps à. Quand on a les médias pour soi, il y a plein de choses qui rentrent en compte.
Et c'est ainsi que se termine ce magazine Tumulte. Tumulte, c'est tous les mardis de 20h à 21h30, rediffusion le mercredi à 16h30 et à 23h, et sur le net radiopfm.com. Salut et à la semaine prochaine!